Donc, le docteur Pollin nous a parlé hier des principes philosophiques qui devaient animer des concepts comme le fédéralisme, le nationalisme et le régionalisme. Il nous a expliqué que un fédéralisme démocratique était en soi contradictoire et que le seul véritable fédéralisme qui pouvait réunir à la fois les besoins d'unité et de diversité des sociétés humaines devait être un fédéralisme basé sur un pouvoir spirituel. Et le docteur Pollin nous a expliqué que le véritable fédéralisme s'est vécu dans l'Europe médiévale au temps de la chrétienté. Ce soir, le docteur Pollin va nous entretenir d'un sujet qui semble différent, mais qui en réalité est tout à fait complémentaire à ce que nous avons entendu hier. Il va nous parler de la civilisation du moi et en fait d'un autre principe philosophique qui est à la base des sociétés démocratiques modernes, c'est-à-dire l'individualisme.
Oui, j'ai pris ce titre, La civilisation du moi, car c'est un thème sur lequel je réfléchis depuis plusieurs années. C'est une manière de présenter les choses un peu particulière. Je pense que notre civilisation est caractérisée, enfin, je veux dire, notre civilisation, disons, l'époque moderne, en particulier au XXe siècle, l'époque moderne, et par moderne, il faut entendre une période qui, au fond, commence, comme on voudra, vers la fin du XVIe siècle, XVIIe siècle, et en tous les cas, est pleinement épanouie au XVIIIe siècle. Cette époque moderne me paraît donc caractérisée par l'apparition d'une espèce de nouvelle définition de la nature humaine, d'une nouvelle compréhension de ce que c'est que l'homme. Et c'est là évidemment un thème extrêmement vaste dont je ne ferai que donner ce soir une esquisse partielle sur quelques points particuliers. Il est évident que je ne saurais développer en 1 heure tous les thèmes qui me paraissent pouvoir être rangés sous cette thématique générale. Alors, ce que je vais faire, c'est d'abord essayer de dégager quelques-unes des caractéristiques qui me paraissent saillantes de notre société. Quand je dis notre société, je devrais préciser encore, naturellement, que je n'entends parler que des sociétés que je connais, ou que je peux connaître d'une manière raisonnablement suffisante ou scientifique, à savoir des sociétés occidentales. Enfin, je n'entends parler, bien entendu, que ce que l'on, enfin, de l'ère géographique qu'il est convenu de désigner sous le nom d'Occident. Alors, je voudrais d'abord essayer de déterminer quelques-uns des traits qui me paraissent essentiels donc de ces sociétés occidentales contemporaines, et puis ensuite, dans un deuxième temps, vous montrer les conséquences de le fonctionnement réel, n'est-ce pas, de ces systèmes sociaux la plupart du temps, couramment, sont exaltés comme des systèmes sociaux représentant, au fond, le progrès, n'est-ce pas, incarnant le progrès même de l'humanité, et représentant par conséquent une forme d'idéal, n'est-ce pas? Il n'y a pas si longtemps, comme vous le savez, il ne s'agit pas de spéculation très philosophique, mais enfin, on peut citer l'exemple parce qu'il est parlant. Vous devez savoir qu'il y a quelque temps, quelques années, je ne sais pas trop comment l'appeler, peut-être philosophe, enfin en tous les cas lui-même s'appelait ainsi, américain, avait considéré que la civilisation du libéralisme telle qu'elle était incarnée par les États-Unis représentait la fin de l'histoire. Bon, eh bien, nous allons, si vous voulez, en somme, essayer d'apprécier ce que c'est que cette fin de l'histoire, ce que c'est que cette société apparemment idéale. Alors, je vais passer en revue, si vous voulez, quelques-uns des domaines essentiels qui caractérisent quelques-uns des secteurs essentiels de toute société ou toute vie sociale. Vous parlez de la politique, de l'économie, de la morale. Je vais commencer par le domaine intellectuel, par le domaine, si vous voulez, scientifique. Notre époque me paraît, bien que, comme c'est souvent le cas, le mot soit demeuré le même au fil des siècles, n'est pas la science n'est pas un terme moderne, c'est un terme utilisé, quel que soit le langage, en latin ou en grec, pas depuis bien des siècles. Eh bien, cependant, malgré l'identité du mot, je crois que la science moderne, le savoir moderne, est en réalité quelque chose de très particulier, de profondément différent de ce qu'il a été pendant des siècles en Occident. Ce qu'on entend aujourd'hui par science, ce qui passe pour être scientifique, enfin, malgré l'identité des mots, me paraît-elle quelque chose de profondément différent de ce que un Platon ou un saint Thomas pouvaient entendre par science. Et si je veux en définir ces choses qui demanderaient de approfondissement beaucoup plus considérable que ce que je veux leur accorder ce soir, mais si on veut résumer schématiquement l'idée, on pourrait dire à peu près, me semble-t-il, la chose suivante. Un homme comme Platon, pour un homme qu'on peut, si vous voulez, pour ce qu'on pourrait appeler un homme de la tradition ou de la philosophie traditionnelle ou de la philosophie classique, la science, que ce soit d'ailleurs, et c'est déjà très caractéristique, que cette science soit la science au sens des sciences exactes, comme diraient les modernes, ou que ce soit la science comprise comme philosophie. La philosophie et la science au sens moderne du terme ne faisaient dans cette manière qu'un, n'est-ce pas ? Ce qui veut dire que la science, la connaissance de l'univers, la connaissance des choses, n'est-ce pas, avait au moins deux caractères corrélatifs, étroitement liés, presque, enfin, très difficiles à discerner par l'analyse, à distinguer ou à analyser en deux temps différents. Cette science était simultanément une science qui ne cherchait pas tellement à agir sur les choses qu'à en tirer des normes de comportement. Le savant, aussi bien que le philosophe, un homme comme Platon était mathématicien, philosophe, théologien, si vous voulez, à sa manière, n'est-ce pas ? En même temps que astronome, sociologue et tout ce que vous voudrez. C'était un homme qui, au fond, cherchait à percer le secret de l'univers, non pas pour s'en servir, mais avec l'idée que ce secret devait pouvoir constituer une règle d'existence pour les hommes. On cherchait à lire dans la nature les lois, les principes de toute existence humaine. Ce que je dis de Platon, je le dirais tout autant de n'importe quel philosophe chrétien classique. Enfin, la nature, a fortiori, n'est-ce pas, la nature des choses, le monde sous quelque aspect qu'on l'envisage est créé par Dieu. Par conséquent, a fortiori, le monde et la compréhension du monde ne fait qu'un avec la compréhension de ce que l'on doit être et de ce que l'on doit faire, n'est-ce pas? La science classique, encore une fois, qu'elle soit science au sens de la science moderne ou qu'elle soit philosophie, hein, est contemplative. On contemple, on cherche à comprendre. et on en tire des leçons. Eh bien, ce qui me paraît caractéristique du monde moderne, c'est que la science d'aujourd'hui, ce qui passe pour scientifique aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Enfin, ce qui me paraît caractériser la science moderne, c'est que, précisément, pour elle, et c'est ce qui fait, d'un seul coup, la distance entre le savant et le philosophe, pas la distance s'est creusée. L'univers n'a rien à apprendre à l'homme. La nature ne recèle aucun secret, pas qui soit de, précisément propre à régler les problèmes humains. La nature ne comporte aucun secret. En vérité, la nature n'a pas de sens. Les choses sont ce qu'elles sont, pour aussi bien être autrement, comme disait le vieux père Hume. Pas, elles sont ce qu'elles sont, mais c'est contingent. Et alors, de sorte que lorsqu'on cherche à connaître la nature, ce qui fait le prestige d'ailleurs, aussi bien que la signification du savant moderne, ce qui fait son prestige auprès de la population, c'est que le savant moderne, pour qui la nature n'a aucun sens d'une certaine manière, c'est un homme qui sait utiliser la nature. C'est un homme qui sait dominer la nature. Le thème de la domination de la nature est un thème fort ancien, mais il a reçu, mais là encore fort ancien, les mots sont les mêmes, mais les idées sont différentes, n'est-ce pas ? Dans le monde moderne, il s'agit vraiment, depuis le XVIe siècle, les traces sont extrêmement nettes, je n'ai pas le temps de revenir à beaucoup d'illustrations d'histoire de la philosophie, mais sur le même thème. Enfin, depuis le XVIe siècle, le but de l'homme, c'est la manipulation de la nature. Enfin, Descartes avait une formule très célèbre, n'est-ce pas ? Il voulait que l'homme devienne le seigneur et maître de la nature. Et Descartes est l'homme pour qui le monde est avant tout une étendue manipulable, pas pour qui la matière est essentiellement un élément neutre, n'est pas, et manipulable. Le but de la science moderne n'est plus la contemplation, mais la transformation. Et alors évidemment, quel est le sens réel de la science moderne dans ces conditions ? À partir du moment où sa finalité réelle, c'est la manipulation des choses, il est évident que son mobile, et là encore peut-être précisément la raison de son prestige, c'est que loin d'être une école au fond de respect de l'ordre des choses, loin d'être une école de contemplation justement d'une réalité qu'il ne faut surtout pas toucher, la science moderne est évidemment au service de l'homme, c'est-à-dire, et si vous pensez que cet homme est par définition un être qui ne cherche plus en dehors de lui le secret de son existence, si l'homme n'est plus un être qui cherche sa loi dans la nature des choses, il est évident, en un mot commençant, et je court-circuite un peu, il faudrait être un peu plus long, ce qui fait le prestige de la science moderne, c'est qu'elle est au service des désirs humains. En réalité, pas la science moderne est déjà une manière, illustre déjà le thème sur lequel je veux réfléchir, à savoir la prééminence, la prévalence, le caractère central de l'individu et de ses défini précisément, essentiellement, par ses désirs, quels qu'ils soient, dans leur indéfinitude même, pas dans leur multiplicité, dans leur infinité, je dirais dans leur vacuité même. La science est l'instrument des désirs, et si vous voulez, pour prendre une formule très banale, très populaire, la science est populaire pas parce que précisément elle permet à l'homme de faire ce qu'il veut. Elle permet aux individus de réaliser ce qu'ils veulent. Bon, prenons un autre domaine, le domaine politique. Je ne veux pas revenir, là encore, on pourrait développer longuement, je l'ai déjà un petit peu fait hier, on revient, on retombe toujours sur des idées analogues. Le régime politique caractéristique de la société moderne, c'est la démocratie. Bon, la démocratie est le régime, n'est-ce pas, idéal pour les modernes. Il représente le modèle indépassable de toute société politique. Or, sur quoi est fondée la démocratie? Quel est le principe premier de la démocratie? Comme je le disais hier, comme je le répète à tout bout de champ, ce principe présente un aspect massif et grossier, hein, un aspect élémentaire, qui est à peu près le suivant. Hein, la démocratie est le régime qui, au fond, prend pour fondement, prend pour ressort, prend pour principe la validité ou la légitimité des revendications individuelles, hein, la légitimité de la revendication de chaque individu à faire ce qui lui plaît. La souveraineté, pas populaire, n'est jamais que la souveraineté de l'ensemble des citoyens. Et le mot de souveraineté, là encore, une longue étude serait tout à fait possible. Et si je faisais un cours, j'y passerais naturellement beaucoup plus de temps. Mais le mot même de souveraineté est un mot, alors pour le coup, lui, récent. Est un mot qui ne date pas de longtemps, c'est un mot qui apparaît comme par hasard vers le XVIe siècle et qui décrit très bien, n'est-ce pas, cette espèce de volonté affichée par chacun, pas, d'avoir droit, je citais la formule hier soir, à tout ce à quoi ses forces lui permettent de prétendre, pas, cette volonté de l'individu ou cette affirmation par l'individu que chacun a le droit au fond tout simplement, tout bêtement, de faire ce qui lui plaît, hein, eh bien le régime qui incarne cette aspiration, c'est la démocratie. Le citoyen est souverain. L'affirmation première, si vous pouvez, il y a 36 manières de présenter la même idée. L'affirmation fondamentale de la démocratie, c'est qu'il n'existe aucune idée, aucune norme, aucune loi, aucune coutume, aucune autorité d'aucune sorte, n'est-ce pas, qu'elle soit humaine ou divine d'ailleurs, pas, aucune espèce d'autorité qui soit supérieure à l'autorité de la décision individuelle. Et j'ai le droit de penser ce que je veux, j'ai le droit de faire ce que je veux. Les problèmes de la démocratie s'ensuivent ultérieurement. Quand tout le monde fait ce qui lui plaît, évidemment, ça ne peut qu'engendrer un certain nombre de difficultés dans le fonctionnement même du corps social composé d'individus ainsi définis. Mais peu importe les problèmes pour l'instant, n'est-ce pas, il est bien clair que le fondement, n'est-ce pas, de la démocratie, c'est, comme disaient très clairement les philosophes du XVIIe ou XVIIIe siècle, l'état de nature. Sont eux qui inventent cette formule très caractéristique. Pas, l'homme vit à l'état de nature comme un être, comme un animal, pas, qui n'a rien d'autre à faire qu'à être ce qu'il est. Eh bien, la démocratie entend être le régime social qui permet, au fond, la perpétuation de cet état de nature. Là encore, vous voyez, on retrouve le thème de l'individu. J'irais même jusqu'à dire que je voudrais le souligner au passage, c'est ce qui fait, à mon avis, le caractère effectivement indépassable, à bien des égards, de la démocratie, ce qui fait son succès. On ne peut pas dire que les citoyens, que nous, nos contemporains, soient très souvent satisfaits de la démocratie. Je connais l'exemple de la France, où il n'est pas de jour où on ne puisse lire dans la presse pas à quel point les dirigeants, quels qu'ils soient, sont idiots, sont corrompus, sont maladroits, sont de mauvaise volonté. Genre. Bon, il ne se passe pas de jour, et j'imagine qu'il en va de même au Canada en général et au Québec en particulier, n'est-ce pas, où le peuple ne désavoue bruyamment ses propres dirigeants. Oui. Tout ça, c'est très joli. L'État fait ceci, ils font cela, les critiques pleuvent. Il n'empêche que la démocratie demeure indéracinable parce qu'elle flatte précisément ce qui est précisément le, ce qui est le, enfin, à mon avis, le l'homme constitutif du monde moderne. Enfin, elle flatte au fond la vanité individuelle. Elle flatte, je ressens ça à la fois comme citoyen et comme professeur, ce qui me paraît caractéristique du monde moderne, et c'est un phénomène qui me paraît typiquement démocratique, c'est que chacun s'y estime de plus en plus clairement, de plus en plus bruyamment, habilité à juger de tout. Un citoyen souverain, c'est un homme qui peut juger de n'importe quoi, de l'avortement, de l'existence de Dieu, ou de la longueur des feux qui doivent permettre la circulation dans les croisements. Bon, et l'étudiant moderne est un être qui, n'ayant jamais rien appris, sait tout par naissance, puisque de toute manière, il n'y a pas de vérité, puisqu'il n'y a rien qui puisse passer sa propre décision. Et moi, j'avoue d'ailleurs que je n'hésite pas à répliquer avec une certaine brutalité, parce que je n'arrive pas à me maîtriser vraiment quand j'entends des questions qui commencent ainsi. « Monsieur, vous avez dit que... » Ben moi, je pense que... Ben moi, le « moi, je pense que » me paraît absolument caractéristique de la société moderne. Je pense que quand on a affaire, en particulier quand on a affaire à des jeunes gens qui peuvent être des jeunes gens fort intelligents mais qui n'ont jamais que 18 ans et qui viennent de passer leur baccalauréat, le « moi je pense que » est la preuve d'une espèce de gonflement extraordinaire de l'individu. Pense que avant de dire même « je pense », il faudrait laisser passer un certain nombre d'années de travail effectif et réel. Toujours est-il que voilà un autre exemple, si vous voulez, de l'apparition d'un nouveau type d'homme. Pendant des siècles, le citoyen s'efforçait humblement d'essayer de comprendre ce qui pouvait se passer dans la société et l'étudiant s'efforçait d'étudier. On a affaire maintenant à une société démocratique où tout le monde sait tout par naissance et qui plus est, tout le monde sait tout par naissance, parce que précisément, tout le monde a par naissance le droit de penser ce qu'il veut. C'est une nouveauté. C'est, à mon avis, une nouveauté, n'est-ce pas ? J'en donne un troisième exemple. Ce jeune Américain là, qui voyait la fin de l'histoire au bout de sa plume, considérait que l'une des caractéristiques essentielles de la société moderne, c'était le développement de l'économie libérale, pas le progrès économique et social. Fort bien. Laissons de côté la question de savoir ce qu'il en est pour l'instant, mais reconnaissons au moins une chose, c'est que le développement économique est une autre preuve de ce que j'avance, de l'apparition d'un nouveau type d'homme. D'un individu qui est essentiellement satisfait de ce qu'il est, et qui se juge habilité, qui se juge légitimé à être ce qu'il est. Le développement économique, quelles que soient ses vices ou ses qualités, quels que soient ses défauts, a au moins, à mes yeux, une caractéristique profonde, qui est tellement évidente qu'on ne la mentionne pas souvent. C'est que, vous voyez, ce qui caractérise l'économie moderne, et là encore, le mot économie est vieux, mais pour le coup, il a changé de sens. Je veux dire, il a perdu le sens du vocable initial. Et ça, les gens l'ont dit au XVIIIe siècle. Vous savez ce que ça signifie en grec ? L'économie, c'est la gestion de la maisonnée, c'est la gestion du privé. C'est la gestion de sa maison. C'est la nomos, c'est la loi de l'oikos, de la maison. Au XVIIIe siècle, l'économie devient, le vocable est adopté de manière très philosophiquement lucide, l'économie devient l'économie politique, ce qu'elle n'avait jamais été auparavant. Eh bien, ce qu'il y a sous ce vocable, à mon avis, n'est-ce pas? Ce qu'il y a, enfin, il y a énormément de choses, mais il y en a au moins une que je voudrais souligner ce soir. Bon, il y a plusieurs, on peut prendre la différence de plusieurs manières, mais enfin, il y en a une au moins. Ce qui caractérise, n'est-ce pas, l'économie moderne, l'économie de marché, qui passe pour être le fin mot, le dernier mot du progrès en la matière. Ce qui caractérise cette économie à mes yeux, n'est-ce pas, c'est que c'est un système qui est essentiellement fait, qui a pour, non seulement pour principe, mais pour fin, dans lequel on trouve au départ et à l'arrivée, eh bien, la totale liberté de l'individu, la capacité et en même temps l'affirmation de la légitimité de chaque individu à faire ce qui lui plaît. Qu'est-ce qui caractérise l'économie libérale? Qu'est-ce qui caractérise l'économie de marché? C'est que un marché est un endroit où il y a des gens qui apportent leur camelote, pas, il y a des gens qui apportent n'importe quoi, des lacets de chaussures, n'est-ce pas, des automobiles ou des bouteilles de vin, et puis vous avez d'autres gens qui viennent sur le marché, qui regardent. L'un vend, l'autre achète. Chacun fait strictement ce qu'il veut. Ce qui caractérise, n'est-ce pas, l'entreprise privée, c'est que précisément, ce qui caractérise l'entrepreneur, n'est-ce pas, c'est qu'il invente ce qu'il croit, le produit qu'il croit pouvoir plaire, n'est-ce pas. Et inversement, personne ne force l'acheteur à acheter, il fait ce qu'il veut, tout le monde fait ce qu'il veut. Et le résultat, la grande loi, si vous voulez, de ce système économique, c'est que, au fond, je dirais tout simplement, chacun fait strictement ce qui lui plaît. Le dernier mot du progrès en matière d'économique, c'est un système dans lequel chacun fait ce qui lui plaît. Et c'est pour ça d'ailleurs, hein, c'est pour ça d'ailleurs que on pourrait là multiplier les descriptions, c'est pour ça d'ailleurs que l'économie moderne, hein, c'est un système dans lequel tout se vend et tout s'achète. Il n'y a aucune limite. Tout se vend, il suffit que ça se plaise à quelqu'un. Tout s'achète parce qu'il suffit qu'il y ait quelqu'un à qui ça plaît. Le système est fait pour satisfaire les désirs. Hein, le système, l'essence philosophique de l'économie moderne, n'est-ce pas, c'est d'être essentiellement, en réalité, un système de satisfaction de n'importe quel désir. Et c'est pour ça, autre exemple, autre application du même principe, c'est pour ça que l'argent y est roi. L'argent y est roi parce que l'argent, comme disent tous les économistes, c'est le médium universel. Avec l'argent, vous achetez tout et vous vendez. Vous achetez tout ce que vous voulez. Il n'y a aucune règle, aucune loi dans ce système que le désir. Tout s'y achète, tout s'y vend, n'est-ce pas? Et chacun, au fond, n'agit qu'en fonction de ses propres désirs. En réalité, ce sont des choses qui sont à la fois très évidentes et qui ne sont jamais mentionnées. On apprécie beaucoup, n'est-ce pas? On apprécie beaucoup le principe de l'initiative privée. Le fait que les entrepreneurs, n'est-ce pas, soient au fond, que l'entreprise privée soit le meilleur moyen, le meilleur garant du progrès économique, ce qui est le grand argument libéral. C'est parfaitement vrai. C'est tout à fait vrai. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que l'entreprise privée est tellement efficace? Tout pour cette raison élémentaire et qui n'est pas souvent mentionnée, c'est qu'il n'y a dans le monde économique de travail, d'activité qui se développe avec intensité que l'activité qui rapporte à l'individu. Vous n'avez pas ce qui fait l'échec de l'économie socialiste en particulier. C'est le fait qu'ils entendent instaurer une économie sur la base du dévouement de l'acteur économique à d'autres finalités que son propre intérêt. Et ça ne marche pas. L'initiative privée, elle n'a aucun, aucune vertu particulière en dehors du fait que l'individu travaille le mieux quand il travaille pour soi. La consommation est la plus forte quand l'individu peut acheter ce qu'il veut. Le travail producteur est le plus efficace quand le travail producteur accumule des bénéfices qui sont à la disposition de celui qui travaille et pas à la disposition de celui qui ne travaille pas. L'ensemble du système fonctionne purement et simplement sur le principe du « moi d'abord ». On peut passer très vite sur un autre domaine, le domaine moral. Quel est le premier et le dernier mot du monde moral, de la morale? Alors, je ne parle même pas, j'y reviendrai, ou je ne parle même pas, si vous voulez, de, au fond, la dissolution de la morale, de la disparition progressive de toute référence à des normes morales. Ou alors là, précisément, triomphe tout simplement l'individu brut, l'homme de l'état de nature, où triomphe l'homme qui a un droit naturel, comme disait Rousseau, sa formule que je retrouve une fois de plus, n'est-ce pas, que je citais déjà hier soir, l'homme qui a un droit naturel à faire tout ce à quoi ses forces lui permettent de prétendre. Ce qui est une formule, encore une fois, qui me paraît d'un cynisme, en même temps d'une clarté tout à fait extraordinaire. Mais, alors je ne parle même pas, évidemment, des gens qui vont déclarant que chacun a le droit de faire ce qu'ils veulent, mais quel est la formule des gens qui croient encore à une morale? Quelle est la formule de base de ceux qui veulent encore qu'il y ait une morale? Ne prenons qu'un exemple le plus célèbre, le plus élémentaire. Prenons l'exemple d'Emmanuel Kant. La morale, c'est l'autonomie. Il n'y a de loi morale, il n'y a de loi possible que celle qu'on se donne à soi-même. Alors j'entends bien que Kant va se donner toutes les peines du monde pour faire en sorte que cette autonomie ne soit pas purement simplement une licence, ne soit pas simplement la loi que je me donne, la loi de mes plaisirs, ça, oui, je veux bien, et ça, nous y reviendrons. Il n'empêche que dans un premier temps, la morale, c'est la loi qu'on se donne à soi-même, ce qui est assez nouveau aussi. Ce qui est assez nouveau. La personne n'avait jamais considéré comme étant contradictoire avec l'idée morale, qu'il puisse exister des normes de comportement qui ne soient pas tout simplement édictées par l'individu. Personne n'avait jamais considéré qu'il fût tellement absurde qu'il y ait des normes qui soient des normes valables pour les hommes, mais que les hommes n'aient pas faites. Ce qui caractérise la morale moderne, c'est au contraire, si vous voulez, prenons l'expression nietzschéenne, prenons Nietzsche qui est très caractéristique, n'est-ce pas? Ce qui caractérise le monde moral moderne, c'est la création des normes morales par l'homme lui-même. Ça, c'est une idée moderne aussi. Je pourrais multiplier, je vous en donne un dernier trait qui me paraît caractérisé, qui va toujours dans le même sens. On voit toujours réapparaître ce thème fondamental. Voyez-vous, on vante souvent les sociétés modernes, en tous les cas dans les journaux, ce thème réapparaît constamment. On dit, oh là là, dans le passé, on avait affaire à des sociétés barbares, à des sociétés sans sociabilité, des sociétés où les hommes se comportaient en sauvages. Maintenant, on est civilisé, maintenant, n'est-ce pas, les choses sont mieux. Et la preuve, n'est-ce pas, c'est que, eh bien, regardez, quand il y a un malheureux dans le monde, n'est-ce pas, que ce soit au Biafra, que ce soit au Rwanda, que ce soit, je ne sais pas où, au Bangladesh ou ailleurs, n'est-ce pas, on se précipite, les fonds affluent, n'est-ce pas, et l'aide humanitaire se développe, n'est-ce pas. L'humanitarisme est devenu un des grands thèmes de la société moderne. Eh bien, voyez-vous, quel que soit le jugement qu'on puisse porter d'autre part sur l'humanitarisme, ce qui me paraît frappant dans cette attitude, ce qui me paraît frappant dans cet humanitarisme qui s'est développé, c'est son côté affectif, c'est son côté sentimental, c'est son côté larmoyant. Quand je n'ai pas eu l'occasion beaucoup de regarder la télévision ici, mais enfin je pense qu'il doit en être exactement comme en France, n'est-ce pas ? Le principal but du journaliste lors du journal télévisé de 8 heures, en France c'est le moment du dîner à 8 heures, c'est peut-être à 6 heures ici, pas c'est de faire pleurer le citoyen dans son potage. Pas, c'est, il s'agit essentiellement de lui faire mettre la larme à l'œil pour qu'ensuite il puisse porter la main au portefeuille. Eh bien, voyez-vous, d'une certaine manière, là encore, c'est le même phénomène. Cette sociabilité me paraît extrêmement douteuse. En tous les cas, mais ne pas, en tous les cas, elle reflète simplement, une fois de plus, l'idée que notre monde n'est plus régi par des normes. Le fait d'être, d'essayer de mobiliser les gens, pas, en agissant sur leurs émotions, sur leur émotivité, est une autre preuve, encore un autre signe de l'émergence, voilà, d'un être au fond qui n'est jamais touché que directement, que par rapport à lui-même, pas, d'un être qui n'a pas de référence à l'extérieur de lui-même. On va chercher dans l'individu ce qu'il est, pas en tant qu'individu. On cherche le dialogue direct avec l'individu, et il faut qu'il le ressente personnellement. C'est pour ça qu'on est tellement émotif dans nos sociétés. L'émotivité de nos sociétés n'est pas, est tout simplement la preuve du fait que les gens sont devenus incapables, encore une fois, de percevoir l'existence de normes, l'existence de vérité, l'existence de lois en dehors d'eux. Au fond, voyez-vous, tous ces différents phénomènes, et j'avance pour ne pas passer trop de temps, il y a beaucoup de choses à dire, ces différents phénomènes me paraissent être des signes de l'émergence, n'est-ce pas, d'un être nouveau que je définis, dont je dirais, si vous voulez, je définirais comme ayant trois caractères. C'est un individu qui est essentiellement fermé sur lui-même, pas, c'est un individu qui est essentiellement autarcique, qui se suffit à lui-même, pas. C'est un individu qui est, c'est une autre manière de dire la même chose, essentiellement satisfait de soi, pas. C'est un individu qui, au fond, considère comme du dernier naturel de se prendre lui-même comme norme et comme juge. De ce qui, tout ce qu'il peut-être pense, de ce qu'il peut penser, tout ce qu'il peut faire, n'est-ce pas? C'est un individu qui est caractérisé par conséquent par une, si vous voulez, une autre formule plus simple, psychologiquement accessible, par une extraordinaire vanité, par une extraordinaire capacité de vanité, pas de vanité d'ailleurs naïve, de vanité qui ne se perçoit pas nécessairement comme telle, n'est-ce pas? Et par conséquent, troisièmement, c'est un individu qui, parce qu'il est fermé sur lui, parce qu'il est content de ce qu'il est, lorsqu'il est malheureux, lorsque quelque chose ne va pas, est tout naturellement porté à en faire porter la responsabilité sur les autres, le monde, la nature, peu importe, n'est-ce pas, sur, en tous les cas, quoi que ce soit qui ne soit pas lui-même, n'est-ce pas? C'est un individu qui, c'est un être nouveau, n'est-ce pas, qui au fond, je dirais d'une certaine manière, a perdu le sens de toute responsabilité, n'a plus aucune espèce de sens de ses responsabilités ou sens de responsabilité tant à l'égard de lui-même qu'à l'égard des autres. Et c'est pourquoi c'est un homme qui au fond est essentiellement affamé d'action sur les choses, d'action sur les autres, et par conséquent qui est largement devenu par là même incapable de penser. La pensée suppose, je le redirais, mais enfin, la pensée suppose, me semble-t-il, la reconnaissance de quelque chose qui existe indépendamment de soi. Eh bien, l'homme moderne, et ça explique probablement une grande partie, ou peut-être le phénomène le plus profond, qui explique une des grandes, enfin toutes les, la plupart, peut-être des vices les plus profonds des sociétés modernes, enfin, c'est que les hommes sont devenus incapables de ce qui constituait depuis l'aube de la philosophie, la définition même de l'homme, c'est-à-dire la capacité de réfléchir, la capacité de prendre de la distance par rapport à soi, la capacité de recul. Bon, alors, ce que je voudrais apprécier sont les conséquences de ce qui me paraît être cet état des choses fondamentales. Ce sont les conséquences dans plusieurs domaines, n'est-ce pas, de l'apparition de ce nouveau type d'homme. Eh bien, les conséquences, je les formulerai, je ne sais pas si j'aurai l'occasion de les voir dans le détail toutes, parce que ce serait peut-être un peu long, je vais sélectionner quelques-unes parmi celles qui me paraissent les plus importantes, mais je dirais, un, première conséquence, je l'appellerai de manière générale, et je vais développer ça un petit peu, la barbarie. Le monde moderne me paraît, la société moderne, les sociétés occidentales modernes me paraît caractérisées par un retour en force de ce qu'on avait appelé pendant longtemps la barbarie. On va la voir, cette barbarie, dans le domaine politique, dans le domaine social, dans le domaine moral. Il y a une deuxième conséquence qui est de plus en plus évidemment apparente, c'est l'apparition d'une distance, l'apparition d'une césure, et d'une césure qui peut devenir dramatique entre l'homme et son environnement. La destruction, du cadre naturel de vie de l'homme, son incapacité à la destruction de ce qui est son milieu naturel et par conséquent ses propres conditions d'existence. Et puis troisièmement, ça me paraît être également son troisième conséquence majeure, si vous préférez en termes psychologiques, son insatisfaction profonde, son mécontentement profond qui se manifeste, qui va jusqu'à se manifester dans les cas extrêmes par une espèce de recherche suicidaire de l'anéantissement. Premièrement, la barbarie. J'entends par là, barbarie, je veux dire que ce qui caractérise le barbare, au moins, si vous voulez, dans le langage grec, c'est le fait de ne pas être civilisé. Qu'est-ce que c'est être civilisé? Dans civilisation, vous avez civis, vous avez la cité. C'est l'incapacité à vivre en société. C'est tout simplement l'incapacité à vivre en société. Voyez-vous, ça me paraît valable sur le plan politique, cette incapacité à vivre en société. Ça me paraît valable sur le plan des mœurs et de la vie sociale proprement dite. Et ça me paraît valable sur le plan de la communication intellectuelle entre les hommes. Prenons la politique d'abord. On s'imagine beaucoup, tous nos contemporains s'imaginent que la démocratie représente la solution idéale, n'est-ce pas, à tous les problèmes de l'humanité, et en particulier de l'homme occidental moderne, que la démocratie est ce qui donne à l'individu le système politique qui donne à l'individu la plus grande liberté. On n'entend jamais autant parler de la liberté qu'aujourd'hui, n'est-ce pas ? La démocratie, c'est d'abord le régime de la liberté. Eh bien, voyez-vous, je pense que, et les deux idées sont étroitement liées, c'est le régime, au contraire, de la plus grande servitude, et c'est le régime de la plus grande servitude parce que c'est le régime le moins sociable qui existe. C'est le régime qui instaure entre les hommes le minimum absolu de liens sociaux et qui développe, au contraire, le potentiel d'insociabilité qui est au cœur de l'homme. Il y a l'illusion, enfin, si vous voulez, l'idée est extrêmement simple, elle est simplement masquée par l'illusion, qui est l'illusion de nos contemporains. Au fond, là encore, je pourrais être très long, je vais me borner à une présentation très simple. Nos contemporains s'imaginent que la démocratie résout tous les problèmes parce que, en démocratie, tout est le produit, comme disait Rousseau, d'un contrat. Tout est le produit d'une convention. Les hommes sont libres parce que les lois auxquelles ils obéissent sont des lois qu'ils ont votées. Par conséquent, c'est ça la grande idée de Rousseau, c'est la grande idée ou de Locke, ou de Montesquieu, ou de Hobbes, peu importe, n'est-ce pas? La grande idée moderne, c'est que les hommes sont libres parce qu'ils n'obéissent, en somme, comme disait Rousseau très bien d'ailleurs, ils n'obéissent qu'à eux-mêmes. Eh bien, je simplifie l'argument, enfin laissons à côté de savoir si c'est vrai ou pas, mais au moins une chose est certaine dans ces conditions. Au moins une chose est certaine. C'est que, et là, tenez, le texte de Rousseau me revient en mémoire, je le cite une fois de plus, parce que comme ça, Rousseau n'est pas suspect, pas de ne pas être à sa manière un démocrate, même s'il a quelques formules, pas pour dire qu'après tout, ce régime est tellement parfait qu'il ne peut pas être appliqué à des hommes. Mais enfin, il n'empêche qu'il essaie d'en faire la théorie, n'est-ce pas? Et Rousseau a dit quelque part, en parlant de la formule qui m'a traversé l'esprit, m'échappe, mais oui, c'est ça. Il vous dit, quand nul, il n'est personne qui, en votant pour une loi, ne songe d'abord à lui-même. Il n'est personne qui, en prenant une décision politique quelconque, ne songe d'abord à soi. Et oui, c'est bien ça le fond de la question. Effectivement, c'est ce que je disais il y a un instant, n'est-ce pas? On n'obéit qu'à soi-même. Mais obéir à soi-même, ça paraît très noble, n'est-ce pas? Mais il y a un sens très élémentaire et très premier. Lorsque je vote une loi, je me soucie d'abord de savoir si elle me rapporte ou pas, si elle est dans mon intérêt ou pas, etc. Autrement dit, n'est-ce pas, le principe fondamental, le principe premier de la démocratie, c'est encore là une idée élémentaire, mais on n'y revient pas très souvent parce qu'elle a des conséquences un peu gênantes. Le principe premier de la démocratie, à mes yeux, je répète souvent, c'est ce que j'appellerais le principe de réciprocité. Je veux dire que on ne prend jamais une décision en démocratie que parce que on cherche à mettre autrui dans une position avantageuse pour nous par rapport à nous-mêmes. Je ne me demande jamais, en d'autres termes, si une loi est bonne ou mauvaise. Je me dis tout simplement, grâce à cette loi, je sais ce que peut faire ou ne peut pas faire autrui, je sais ce qu'il peut ou ne peut pas me faire. J'accepte d'obéir à cette loi, mais c'est à condition qu'autrui y obéisse. Autrement dit, en réalité, ce que je cherche à faire, c'est à soumettre à autrui à une loi qui peut éventuellement m'être avantageuse. Autrement dit, le principe fondamental de la démocratie, c'est quand même le souci essentiel et exclusif de soi. Dans un système démocratique, on nous bassine ou on rebat les oreilles avec l'idée qu'il existe un intérêt général, n'est-ce pas, et que les citoyens sont appelés à décider de l'intérêt général. C'est une blague. L'intérêt général n'existe en démocratie par définition pas. L'intérêt général n'est jamais que la manière dont les individus se représentent chacun leur intérêt particulier. Par conséquent, et s'il en est ainsi, et si le principe fondamental du système démocratique, ce n'est pas le dévouement à autrui, ce n'est pas l'élaboration en commun des lois les meilleures pour tout le monde, mais chacun, comme c'est encore une autre formule de Rousseau, nul n'entre jamais en société que pour son avantage. C'est l'utilité personnelle. Mais si chacun entre, il est bien évident que c'est le meilleur terrain possible pour l'éclosion, pour l'épanouissement d'une méfiance à l'égard d'autrui. Par le principe premier de la démocratie, ce n'est pas l'amitié pour les autres, mais la méfiance, parce qu'il s'agit essentiellement de faire en sorte que les autres ne fassent pas ce qu'on ne souhaiterait pas qu'ils vous fassent. Le principe premier de la démocratie, c'est en réalité la totale absence de confiance dans l'autre. Et le résultat d'ailleurs, c'est que au fur et à mesure que la démocratie se développent les règlements, n'est-ce pas, les lois qui deviennent de plus en plus détaillées, de plus en plus nombreuses, par lesquelles chacun cherche à enserrer les autres dans un réseau comme le Gulliver, n'est-ce pas, pris dans les multiplicités de petits fils tenus au sol par de multiples fils, cherche à empêcher les autres d'avoir aucune espèce d'autonomie. Le régime démocratique, parce que précisément il a pour finalité essentielle le salut individuel, ne peut qu'être une volonté de surveiller, de contrôler et de limiter les mouvements des autres. Le développement de ces mille petits liens qui enserrent l'existence individuelle me paraît être dans la logique même des systèmes démocratiques. Et au bout, au terme final de ce développement, vous avez des régimes dans lesquels les individus passent leur existence à essayer d'empoisonner la vie du voisin avant que le voisin n'empoisonne la leur. Ce sont les régimes totalitaires. Au bout du développement des régimes démocratiques, vous avez par exemple les régimes communistes dans lesquels lisez tous les récits rapportés par les gens qui ont vécu dans ces systèmes, dans lesquels se développent des réseaux de contrôle permanent de chacun par chacun ou de tous par chacun. L'égalitarisme de nos sociétés, l'égalitarisme des sociétés démocratiques n'est jamais que, au fond, une forme de volonté de contrôler autrui, de contrôler des hommes dont on a le sentiment foncier qu'ils ne peuvent que constituer des menaces pour sa propre existence. C'est l'état de nature. C'est très exactement un retour à l'état de nature où chacun ne dort plus jamais que d'un œil ou que d'une oreille, parce qu'il faut que l'autre œil et l'autre oreille puissent prévoir la menace qui arrive. L'homme en démocratie vit en se garant d'autrui, en prévenant pas toutes les agressions éventuelles de l'autre, pas et en les prévenant à coups de lois, de règlements, de revendications, de protestations, de grèves, etc., etc., etc. La même chose se voit dans les mœurs, si vous voulez, et en particulier, la prépondérance de l'économie dans nos sociétés, la prépondérance du développement économique dans nos sociétés me paraît très caractéristique de cette barbarie, qui n'est pas une barbarie apparente, mais qui l'est profondément. Le fait que nos sociétés soient d'abord des sociétés industrielles, d'abord des sociétés économiques, en paraît admirable depuis le XVIIIe siècle, n'est-ce pas ? Et d'ailleurs, vous avez sans aucun doute entendu le slogan encore il n'y a pas longtemps. Les relations commerciales, les relations économiques, c'est la paix. Quand on fait du commerce, on ne fait pas la guerre. Autre illusion, me semble-t-il. Autre illusion, l'économique, c'est ce que la tradition avait toujours perçu. L'économique, ce n'est pas la paix. L'économique, c'est la guerre hypocrite. L'économie, c'est la guerre larvée. L'économie, c'est
l'économie tue autant que la guerre, mais elle tue sans que ça se voit autant. Elle tue sans que le sang soit répandu de manière aussi visible. Bon. Je me bornerai à ce concept très simple. L'économie. Il n'y a pas d'économie, il n'y a pas de développement économique sans le développement des échanges. Tous les économistes le savent, c'est le béaba de l'économie. Ce qu'on oublie simplement, c'est qu'une activité d'échange, c'est quand on échange. C'est que l'échange est intrinsèquement une relation de concurrence, est une relation en réalité de force. Quand on échange, eh bien on cherche évidemment, quelle que soit la nature de l'échange, on cherche évidemment à être en position de force. Qu'est-ce que le commerce sinon la recherche d'une position de force? Qu'est-ce que la recherche sinon... Qu'est-ce que le commerce sinon la recherche de ce que dans le commerce on appelle les parts de marché? J'ai travaillé dans de grosses entreprises. Bah, l'ambition essentielle d'une grande entreprise, c'est d'acquérir des parts de marché, comme on dit. Parce qu'on sait qu'à partir d'un certain, d'une certaine occupation du marché, d'un certain taux de participation dans le marché, bah, on a gagné l'essentiel du marché. La clientèle devient prisonnière, en quelque manière. Et tous ces raisonnements sont des raisonnements de violence, sont des raisonnements de force. Il s'agit non pas, bah, il est bien évident qu'il ne s'agit, non, il ne s'agit pas de, du souci bah, de l'autre qui en l'occurrence prédomine, mais il s'agit évidemment du souci dans chaque cas de son intérêt propre par chacun des partenaires bah, à ces échanges. Et le résultat d'ailleurs, et Marx a tout à fait raison, le marxisme, le socialisme en général sort tout naturellement de nos sociétés, sort tout naturellement des sociétés économiques. Marx a dit, les sociétés capitalistes, les sociétés industrielles sont des sociétés de lutte de classe, tout le monde le sait. Sa seule erreur, c'est pas d'avoir dit ça, il a parfaitement raison, c'est vrai. Sa seule erreur, c'est de n'avoir pas compris que la lutte n'était pas seulement circonscrite aux classes, mais qu'elle s'attendait à tous les individus. Et c'est d'ailleurs pour ça, bon, c'est d'ailleurs pour ça que le socialisme derrière lui commet la même erreur symétrique du libéralisme. Il s'imagine régler les problèmes sociaux par des moyens économiques. Ne voyant que les conflits de classe, ils oublient les conflits d'individus. Et les conflits d'individus, en réalité, font que le socialisme est, au fond, une insociabilité symétrique du libéralisme. Il y a une barbarie sociale comme il y a une barbarie libérale. Dans les deux cas, nous avons affaire à une société qui est essentiellement fondée sur des rapports de force dans lesquels on s'efforce simplement de que le sang répandu ne se voit pas trop. Mais en réalité, il s'agit de l'inverse d'une société sociable, d'une sociabilité. Et je voudrais vous en donner un exemple particulièrement scandaleux. Enfin, je vais probablement choquer un certain nombre d'entre vous. Il y a justement un des thèmes majeurs de la, si vous voulez, du discours ou de la philosophie contemporaine concernant nos sociétés, c'est que nos sociétés sont particulièrement admirables parce que s'y est développée la solidarité sociale. La solidarité. Je pense que le mot est aussi courant au Canada ou au Québec qu'en France. Or, en tous les cas, je peux vous dire qu'en France, c'est un des maîtres mots du langage politique. N'importe quel politicien de quelque bord qu'il soit vous propose simultanément la liberté, naturellement, et la solidarité. Enfin, la solidarité, c'est la valeur politique numéro un. Eh bien, je crois que la solidarité, sous ses dehors bénins ou sous ses dehors généreux, ne fait que dissimuler l'hostilité de l'homme pour l'homme et est une autre forme en réalité de retour à la barbarie. Pourquoi? Eh bien parce que si vous voulez, pour le dire très rapidement et très de manière en simplifiant beaucoup, je pense que la solidarité, voyez-vous, c'est essentiellement une manière quand on dit que tous les individus sont solidaires, quand il y a, on vante la solidarité, ça veut dire que chaque individu est tellement lié à tous les autres que le bloc social, n'est-ce pas, est tellement solide que quoi qu'il arrive à un individu donné, les autres doivent d'une certaine manière en être responsables, doivent en être tenus pour responsables. Enfin, j'entends bien, j'insiste bien sur le mot de responsabilité. Quand vous êtes solidaire, ça veut dire qu'au fond, tous les individus ont une dette envers tous les autres. Autrement dit, vous voyez par là même la différence qui peut exister entre cette attitude et puis l'attitude, si vous voulez, on pourrait appeler rapidement la charité. Dans la charité, vous avez un devoir d'aider les autres. C'est un devoir. La solidarité instaure une dette de certains individus, de tous les individus, par rapport à chacun, et de chacun par rapport à tous. Une dette. La solidarité ne parle jamais en termes de devoir, mais en termes de dû. De sorte que, si vous voulez, en réalité, la solidarité, je court-circuite le raisonnement et je vais à ma conclusion, la solidarité pour moi, c'est essentiellement pour un individu d'exploiter les autres. La solidarité, c'est une manière de se faire payer, pas une existence plus ou moins confortable, mais une se faire payer pas l'existence qu'on n'est pas capable d'assurer par ses propres moyens. La solidarité, c'est essentiellement une revendication. Ça consiste essentiellement à essayer, au fond, c'est une espèce de vol. Et ça consiste essentiellement, n'est-ce pas, à vouloir se payer sur le dos d'autrui. L'attitude de charité, le devoir que l'on a d'aider les malheureux, n'a rien à voir, me semble-t-il, avec cette dette qui est instaurée de manière à ce que tout un chacun puisse, à tout instant, et naturellement les plus incapables en tête, mais laissons même cela, de manière à ce que tout un chacun puisse à tout instant réclamer son dû de la part de tous les autres. Ça n'est jamais qu'une nouvelle forme d'exploitation de l'homme par l'homme. Ça n'est jamais qu'une nouvelle forme de lutte. Bon, avançons. La barbarie morale. Je pense que il n'y a jamais eu aussi peu de communication entre les hommes sur le plan de l'esprit, sur le plan des idées, comme sur le plan des comportements. Il n'y a jamais aussi peu, on parle tout le temps des droits de l'homme, d'ailleurs, ce serait un autre sujet encore, on en avait parlé l'année dernière d'ailleurs, il y a là une grande méprise, mais enfin... on ne parle jamais, au moins, si vous voulez, si on laisse les droits de l'homme, de moralité et de devoir à l'égard de l'autre, que dans nos sociétés où, précisément, n'existe plus, au fond, aucun respect de l'homme pour l'homme. Et où il n'existe plus aussi peu de capacité, de possibilité de communication des idées. Et je le montre très simplement. Les principes moraux, si vous voulez, le respect de l'homme pour l'homme, pas le respect qui doit exister entre les hommes, suppose évidemment la présence de normes communes auxquelles tous les hommes soient soumis ensemble. Le respect de l'homme pour l'homme passe par le respect de quelque chose qui est commun à tous les hommes et qui, en tant que tel, doit être respecté. Or, comment voulez-vous que ce respect apparaisse dans une société où il est très explicitement dit dès le point de départ que, d'une certaine manière, les normes sont édictées par les individus. Ce que je veux dire, c'est que là, il faudrait revenir ici plus longuement sur la notion d'autonomie. Ce que je veux dire, c'est qu'elle présente un caractère éminemment vicieux, cette notion d'autonomie dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui caractérise la morale moderne, c'est l'autonomie. Très bien, il est vrai qu'il n'y a pas de morale sans responsabilité personnelle. Il est vrai que, d'une certaine manière, la loi morale est une loi à laquelle on obéit librement. Il est vrai que si on obéissait mécaniquement, il n'y aurait plus de morale. La morale suppose le mérite, suppose la responsabilité individuelle. Bon, mais ce qui caractérise la morale classique, ce qui caractérise la morale classique, me semble-t-il, c'est que la norme morale est simultanément une norme intérieure et une norme qui n'est pas faite par l'homme. C'est là, là encore, c'est un grand problème, c'est une, enfin, il faudrait développer ce point considérablement, mais enfin, on peut comprendre rapidement, n'est-ce pas, que d'une certaine manière, là, par exemple, prenons la doctrine chrétienne, ce qui caractérise pas la morale chrétienne, c'est que la loi qui est imposée à tous les hommes ne laisse pas d'être en même temps une loi qui est intérieure à chacun. Ce qui fait la force de cette morale, c'est que précisément la loi est posée indépendamment du caprice de chaque individu. Néanmoins, elle parle à tous les hommes. Ce qui caractérise la morale moderne, c'est que cette dualité a sauté. C'est que la morale, l'individu moderne ne conçoit plus qu'il puisse exister en lui-même une loi respectable qui ne soit pas une loi qu'il a édictée. On aura beau faire, et là il faudrait par exemple se livrer à un certain développement sur le kantisme, enfin, ma conclusion, à défaut de la démonstration, faute de temps, c'est qu'on aura beau faire, mais, et on aura beau essayer de prendre le problème de toutes les manières possibles, on n'échappera pas à cette idée que finalement, ce qui fait la moralité d'une loi, c'est qu'elle a été voulue par l'individu. C'est que l'individu en est l'auteur. D'une certaine manière, n'est-ce pas, et comme le disait très bien Kant, l'existence de Dieu ou l'existence de l'immortalité de l'âme, n'est-ce pas, ou l'existence, en somme, par conséquent, de la possibilité d'une objectivité des normes, cette existence est un simple postulat, comme il disait. C'est un postulat, c'est-à-dire que c'est requis pour la compréhension de l'acte moral. Mais ce n'est pas constitutif dans l'immédiat de l'acte moral. L'acte moral, la loi morale, est une loi de liberté. C'est une loi dont l'homme lui-même est l'auteur. On n'échappe pas à la conséquence, n'est-ce pas? On n'échappe pas à l'idée que, finalement, c'est le bien et le mal qui sont définis de manière humaine. C'est dans le monde moderne que se développent les sociétés ou les théories plutôt, je pense à toute la sociologie. Ce n'est pas un hasard si se développent les théories sociologiques qui affirment que le bien et le mal sont des valeurs sociales. C'est une différence de degré, mais pas de nature. Le bien et le mal sont définis socialement ou sont définis individuellement. Dans l'un et l'autre cas, ils sont définis humainement. Et par conséquent, dès l'instant que, au fond, eh bien, dès l'instant que les normes sont définies humainement, collectivement ou individuellement, dès l'instant qu'elles sont définies humainement, ces normes changent, ces normes varient. Il n'y a plus de repères fixes. Et par conséquent, eh bien, c'est ainsi que vous obtenez des situations qui me paraissent caractérisées par l'injustice. L'injustice à l'état pur, c'est cette situation où un homme qui est condamné aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Un homme qui a été condamné hier peut ne pas l'être aujourd'hui. Où les mêmes situations ne sont pas passibles des mêmes jugements. Il n'y a de rien... Les peines ou les jugements ne sont pas les mêmes de société à société, d'époque à époque, ou même de mois en mois. La législation varie si vite que vous avez des... Que de mois en mois, la définition des délits change. Selon les majorités, et en France elles ont changé assez souvent, selon les majorités, ce qui était permis 6 mois avant ne l'est plus et réciproquement. Eh bien, je dis qu'il y a là une situation dans laquelle l'homme est soumis purement et simplement à l'arbitraire de l'homme. C'est une situation dans laquelle les hommes ne se respectent plus les uns les autres au nom d'un principe qui les dépasse tous. Les hommes se traitent les uns les autres, comme des maîtres et comme des esclaves. Et la même chose pourrait se dire sur le plan intellectuel. On n'a jamais tant vanté la communication qu'à l'époque de la télévision et de la radio. Les hommes passent leur temps à communiquer. Mais je crois que le développement de la communication est coextensif d'un appauvrissement de ce qui est communiqué. On communique certes énormément, mais on ne communique plus rien. Et pourquoi est-ce qu'on ne communique plus rien ? Parce qu'on ne peut communiquer qu'à partir du moment où il y a quelque chose en commun. On ne communique que par l'intermédiaire de contenus intellectuels qui soient compréhensibles par tous. On ne communique qu'à partir du moment où une même idée, on communique par l'intermédiaire d'idées, on échange, comme on dit, des idées, à partir du moment où les idées sont communes à tous les individus. Or, ce qui caractérise notre monde, c'est que précisément, chacun s'y juge habilité à prononcer de la validité des idées, chacun s'y juge habilité à penser ce qu'il veut, et à force de penser ce qu'on veut, c'est littéralement, notre monde moderne offre une image renouvelée de la tour de Babel. Nous sommes très exactement actuellement revenus à l'époque de la tour de Babel, avec cette aggravation que les langages qui étaient des langages nationaux sont devenus des langages individuels. Chacun parle sa propre langue, chacun suit sa petite idée, et il n'y a plus aucune espèce de communication réelle entre les individus, parce que les discours n'ont plus de fondement dans la réalité. Vous savez, la vieille définition de la vérité, c'était l'adéquatio rei et intellectus, l'adéquation de la chose et de l'esprit. Mais oui, l'esprit des individus, devait être adéquat à la chose, c'est-à-dire à une réalité qui dépasse tous les individus. Il n'y a plus de chose. La vérité se définit désormais comme l'adéquatio intellectus, intellectu, à l'intellect lui-même, si j'ose dire, ou à ce qui en reste. La vérité se définit par l'adéquation de l'individu à lui-même. La vérité a cessé d'être, évidemment, elle a cessé d'être un moyen de communication, n'est-ce pas ? Je pense qu'il y a de moins en moins de langage commun, en réalité, entre les hommes. Et cette absence de sens de langage commun, cette absence de sens de la société, c'est une nouvelle forme de la barbarie. On pourrait me dire que la science constitue un langage commun. Je serais prêt à répondre à cette objection. Mon idée, c'est que, n'est-ce pas, le langage scientifique est en réalité beaucoup moins objectif qu'on ne croit. C'est une illusion d'imaginer qu'il y a une objectivité parfaite de la science. La seule objectivité qui existe, c'est que chaque savant, si vous voulez, peut entrer dans la théorie de l'autre. Mais ça ne veut pas dire qui est une unité des théories. Ce qui qui me paraît caractéristique de la science moderne, c'est une espèce de, au contraire, dès qu'il y a un problème grave qui se pose, c'est l'extraordinaire variété des théories possibles explicatives d'un même phénomène. Alors la seule différence, c'est qu'effectivement, à la différence pour moi, de l'art abstrait, ou de la poésie ésotérique, le savant peut comprendre ce qu'a voulu dire l'autre en entrant dans son système d'hypothèses. Mais entrer dans le système d'hypothèses de l'autre, ça n'est en aucun cas considérer que tous les systèmes d'hypothèses soient les mêmes. Et les cas sont fort nombreux où la science émet des avis parfaitement antinomiques sur un phénomène, sur un même phénomène. Bon. Alors, je ne veux pas, j'ai déjà parlé très longtemps, je vous ai annoncé deux autres, je ne dirai qu'un mot des deux derniers sujets. J'avais dit ce triomphe de l'individu, cet individu qui se prend lui-même pour règle de tout, a une autre conséquence notable, c'est la désagrégation son milieu naturel, n'est-ce pas? C'est le fait que l'homme, en devenant, au fond, en développant sa propre science, est devenu capable de manipuler son univers au point d'être devenu capable de le détruire. Il y a quelque chose de... Bon, je ne veux pas entrer trop avant dans ce thème, je le signale simplement en passant et... il y a quelque chose, je me bornerai à dire, quelque chose de vrai. Et c'est pas, il y a quelque chose de non accidentel dans l'apparition de l'écologisme, cette mode. Évidemment, on ne peut pas ne pas prendre conscience du fait que le caractère parfaitement subjectif, je veux dire, c'est ce que j'ai décrit tout à l'heure quand je parlais de la science, le caractère parfaitement subjectif de l'utilisation de la science, le fait que la science est subordonnée aux désirs humains, le fait que la science permet, n'est-ce pas, à l'homme de modifier son univers, a fait que l'homme l'a effectivement fait un peu à tort et à travers et se trouve maintenant sans grande capacité de résoudre les problèmes qu'il a lui-même soulevés. Je n'en donnerai que deux exemples pour aller vite, qui me paraissent parmi les plus, les plus actuels, si vous voulez. Le plus parlant, le plus simple à citer en l'occurrence, c'est le problème du développement de la génétique et le problème de la manipulation génétique. C'est un fait que le développement de la science et le développement de la capacité d'action en matière génétique, n'est-ce pas ? Semble poser des problèmes à la conscience d'un certain nombre de savants, et des problèmes qui, à mon avis, paraissent totalement insolubles, dans la mesure même où justement, leur science est devenue une science non philosophique, est devenue une science des moyens et non plus une science des fins, dans la mesure même où la manière dont ils comprennent la science fait qu'ils sont incapables de percevoir dans l'objet qu'ils étudient la norme de ce qu'ils sont capables de constituer la règle de leur comportement. Ils sont devenus de simples manipulateurs, mais ils ne savent plus à quelle fin. En réalité, les problèmes de l'éthique scientifique moderne sont même de finalité. On peut manipuler, mais à quelle fin? Pourquoi? Et la science moderne se met elle-même dans l'incapacité, s'est mise elle-même dans l'incapacité de résoudre les questions qu'elle a soulevées elle-même. L'autre domaine caractéristique d'impuissance de la science et de la destruction de son cadre de vie ou de son univers ou de la nature dans laquelle il vit, c'est le problème actuel entre tous et sans cesse rebattu du sida. Il est très clair que la réponse actuelle de l'homme moderne, de l'homo modernis au problème du sida, c'est « je veux faire ce qui me plaît », par conséquent, évidemment, d'où la naissance du sida, et ce que l'on attend, c'est que la science donne les moyens de faire ce qui nous plaît. L'homme moderne attend de sa propre science qu'il lui donne les moyens de faire ce qui lui plaît, c'est-à-dire qu'il lui donne les moyens de guérir le sida. Eh bien, je pense que c'est là un autre exemple de l'incapacité de la science à résoudre les problèmes qu'elle pose, parce que précisément, je pense que la question du sida n'est peut-être pas d'abord une question scientifique, mais une question d'un autre ordre. Le vrai remède au problème du sida n'est peut-être pas un remède scientifique, mais un remède tout simplement moral ou spirituel. Et en l'occurrence, l'homme moderne se condamne lui-même, en vertu de ses propres présupposés, à périr en nombre grandissant, en quantité, en proportion grandissante, d'une maladie que peut-être, par une sorte de curieuse nature des choses, il n'arrive pas à guérir. Je trouve qu'il y a quelque chose de symbolique dans le fait que la science n'arrive pas à trouver, à répondre à cette maladie, à trouver le secret de cette maladie. La science n'y arrive peut-être pas parce que philosophiquement, précisément, elle n'arrive pas à comprendre que la réponse n'est pas scientifique. Il y a quelque chose de symbolique dans cette espèce d'impuissance de la science. Et je passe de manière extrêmement rapide, troisième conséquence. Je pense que, en dépit de tout et du développement du mode du progrès social et économique, en dépit de l'amélioration des conditions d'existence de l'homme, au moins de sa possession de biens, d'une quantité grandissante de biens matériels, ce qui me paraît caractéristique de cet individualisme moderne, c'est que les individus sont de moins en moins satisfaits. C'est que cette société qui n'a jamais, ces sociétés qui sont les nôtres, qui sont les sociétés industrielles modernes, comme disent les économistes, des sociétés développées, des sociétés industrielles développées, riches, n'est-ce pas, ne sont pas des sociétés très heureuses. Et ça se voit en particulier, dans la jeunesse, me semble-t-il, qui à certains égards n'a peut-être jamais été en possession de chances éventuelles pareilles, mais qui dans le même temps ne semble jamais avoir été aussi malheureuse et aussi évidemment consciente d'une espèce d'insatisfaction fondamentale, de malaise, n'est-ce pas ? Je crois que là encore, c'est une des conséquences de cette espèce de prévalence, de primat de l'individu moderne, de ce moi qui a servi de titre à ces quelques réflexions. Je crois qu'en effet, voyez-vous, l'une des maladies qui sont le plus propres à frapper l'homme moderne, naissent de la manière dont il se comprend lui-même. Parce que, comme je l'ai dit dès le point de départ, n'est-ce pas, l'homme moderne est un homme qui ne conçoit plus d'autres normes à son existence que celles qu'il veut bien se donner. Or, cela revient évidemment, puisqu'il n'existe plus d'autres normes que lui-même, puisque la seule norme de son existence, c'est son être même, c'est ce qu'il est. Enfin, en réalité, l'homme moderne est un être qui est plus que les hommes ne l'ont jamais été, asservi à ses propres désirs. Il n'existe plus que dans la capacité à se créer des besoins, à se créer des désirs, et il n'existe plus que dans l'assouvissement de ses désirs. pour des raisons qui sont profondément philosophiques. Lorsque vous êtes ce que vous êtes et que vous ne concevez pas être autre chose que ce que vous êtes, la vie consiste évidemment dans une espèce de comment se sentir soi-même, si vous voulez. Il y a une espèce de philosophie de l'existentialisme contemporain est profondément enraciné dans la nature même de l'homme contemporain. Comment se sentir exister, sinon dans la création d'un désir, dans la satisfaction d'un désir? Vous savez, c'est très curieux, mais vous trouvez sous la plume de Hobbes, au début du XVIIe siècle, cette formule extraordinaire. Hobbes, début du XVIIe siècle, Hobbes dit: vivre, c'est désirer désirer. C'est désirer avoir des désirs. C'est désirer éprouver des désirs. Et évidemment, n'est-ce pas? Puisque, d'une certaine manière, que voulez-vous, comme l'être qui se juge habilité à juger tout, l'être qui n'a plus de normes extérieures à lui-même, est un être qui, d'une certaine manière, est enfermé sur lui-même et qui n'a plus d'autre loi, par conséquent, que ce que son être produit. L'homme est condamné, en d'autres termes, pour prendre non plus le langage de Hobbes, mais le langage moderne, à être un être de consommation. La société de consommation, effectivement, c'est la société moderne et c'est la société qui convient à un être qui ne sait plus, parce qu'il n'a plus rien à faire de lui-même, il n'a plus qu'à être ce qu'il est, il n'a plus qu'à consommer. Or, la consommation, l'assouvissement de son désir, c'est d'une certaine manière sa propre mort. Et par conséquent, l'être moderne est condamné à une consommation qui n'a aucune fin et qui n'a aucun sens. La consommation, effectivement, n'a strictement aucun sens. Elle n'achève jamais rien. L'homme moderne a perdu la capacité à devenir ce qu'il est, à devenir, ou plutôt exactement, ce qu'il doit être. Il est par conséquent devenu une simple capacité de jouissance, sans fin au double sens, sans terme et sans finalité. Et cette capacité de jouissance qui est à la fois tout ce qui lui reste d'humain et qui est en même temps totalement privée de sens, le conduit, qu'il y a des phénomènes qui s'expliquent sur la base de cette philosophie comme la consommation de drogue. La drogue, c'est la consommation ultime. La drogue, c'est l'esprit de la société de consommation poussé à son terme. Parce que l'individu finit par s'y annihiler, finit par s'y perdre. Le drogué veut finalement sa propre mort, d'une certaine manière. Parce qu'il n'y a rien. C'est le terme ultime de tout désir. Il y a un moment, il vient où l'individu, comme dit. C'est assez curieux, vous trouvez ça. Il y avait un commentateur de Hegel qui s'appelait Alexandre Kojève, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui disait que le grand thème du... c'est un commentateur de Hegel, mais assez marxisant, d'un homme comme Hegel ou d'un homme comme Marx, c'était l'idée que l'homme ne se réalise que dans la négation de quelque chose. L'homme s'achève, disait-il, normalement dans la négation de soi. Il y a un espèce de nihilisme inhérent au monde moderne, inhérent à l'homme moderne, n'est-ce pas, qui me paraît être au fond la racine profonde de son malheur plus ou moins clairement conçu. Alors, il n'y a qu'une leçon à tirer de tout ça, me semble-t-il. C'est que les mots de la société moderne ont des origines philosophiques et ils peuvent être résumés très simplement. Et qu'en réalité, si on considère que le principe premier de cette société, c'est au fond l'affirmation que l'homme est un être qui se suffit à soi-même, et si les conséquences de ce principe sont celles que j'ai dites, bien la leçon à en tirer doit être tout simplement que l'homme n'est pas un être qui est fait pour se suffire à soi-même. Le monde moderne n'est jamais, à mes yeux, qu'une manière d'illustration de ce qui était la tentation par excellence, de ce qui était le désir destructeur de l'humanité par excellence, à savoir la tentation ou la volonté d'être comme des dieux. L'humanité, l'individu, je crois, ne trouve son bonheur non pas en se niant à la manière des drogués, mais l'homme ne trouve son bonheur que dans sa capacité à réaliser, en quelque manière en lui-même, un modèle de sa propre humanité. Que si l'homme est capable de se dépasser, non pas dans le faux infini ou dans l'indéfini d'un désir sans cesse renaissant et plus ou moins assouvi, mais je pense qu'il ne peut trouver son bonheur que dans le sentiment de pouvoir réaliser en lui un être qui est profondément le sien, tout en n'étant pas encore le sien. Autrement dit, le vrai bonheur c'est la tradition classique, c'est la tradition gréco-chrétienne qui le possédait, parce que précisément c'est une tradition qui n'a cessé d'affirmer que, au fond, la destinée de l'homme, c'était de lutter pour acquérir sa propre humanité. C'était de réaliser en lui-même une humanité qu'il possédait parce que c'était l'humanité, mais qu'il ne possédait pas parce qu'il n'était qu'homme. Cette synthèse entre ce que l'on doit être et que l'on n'est pas, mais que l'on est en puissance, c'était le secret de la philosophie traditionnelle, c'était le secret de la philosophie classique, grecque ou chrétienne. C'est un secret que les hommes modernes me paraissent avoir perdu, qu'ils ignorent désormais, et qu'ils ignorent, à mon avis, à leur dépens. Voilà, j'ai parlé trop longtemps. Je m'arrête sans développer plus avant.
Plusieurs des propos que vous avez tenus me semblent d'un aspect plus métaphysique qu'en réalité. Est-ce que vous pensez que plusieurs des propos que vous avez tenus dépassent même le domaine philosophique, sont plus métaphysiques, sont pas reliés à une philosophie particulière, puis même une philosophie générale? Si
vous voulez dire, est-ce que finalement il ne s'agit pas plus d'une vision théologique que d'une vision philosophique?
Oui, un peu plus théologique, puis même métaphysique au sens des autres traditions, au sens des traditions non chrétiennes ou chrétiennes, mais plus que théologique. Il y a des problèmes, me semble, que vous avez parlé, qui dépassent le domaine philosophique. C'est plus théologique, puis en plus de ça, plus métaphysique.
La métaphysique, c'est-à-dire, je vois pas très bien ce que je peux vous dire. La métaphysique est une partie de la philosophie. Enfin, la métaphysique n'est jamais que, d'une certaine manière, le degré de généralité supérieur des idées philosophiques. Ce n'est jamais que la systématisation des principes fondamentaux de la pensée philosophique. Alors, oui, ce que je veux dire, c'est que, en effet, la difficulté d'un exposé comme celui de ce soir, c'est que j'ai essayé de, si vous voulez, de relier le quotidien, pas, et une définition métaphysique de l'homme, et même une définition quasiment théologique. Oui, c'est vrai. Cependant, si vous voulez, je ne pense pas, je ne vois pas très bien ce que vous voulez dire quand vous dites que j'aurais pu dépasser le niveau philosophique.
D'ailleurs, vous avez, au début, vous avez voulu vous restreindre aux civilisations occidentales aussi. Puis, c'est ça.
Oui. En fait.
Parce qu'il y a la métaphysique aussi, il y a l'aspect ultime de l'homme,
oui,
absolu de l'homme dans la métaphysique. C'est là qui est vraiment la vraie racine. Et après ça, la racine, après ça, elle va dans le domaine philosophique, théologique, et après ça, philosophique. Parce que le domaine théologique est plus relié directement à la personne, puis au concret, au réel, pour se réaliser. Alors, en fait, là, vous, au début, vous avez dit, puis je trouvais ça, oui, très bien, vous vous astreignez au, oui, monde occidental,
oui,
moderne.
Oui, oui, oui.
Mais la vraie racine est plus que philosophique moderne.
En ce sens,
métaphysique,
oui, oui,
au sens,
oui,
absolu.
Oui, oui, oui,
sens,
d'accord. Enfin, si vous voulez dire par là que... oui, je comprends ce que vous voulez dire. Alors là, je serais tout à fait d'accord. J'ai dit que je me limitais à prendre mes exemples dans la société occidentale, mais effectivement, je crois que, si je comprends bien ce que vous voulez dire, ce que j'essaie de dire dépasse, si vous voulez, une affirmation qui n'aurait de portée qu'à l'intérieur de l'Occident.
Oui.
J'entends parler de, c'est vrai, de l'homme. Ce qui est vrai de l'homme occidental peut être vrai de tout homme.
Oui.
Ça, tout à fait d'accord. Oui, en ce sens, oui, ça, c'est vrai, c'est vrai. La seule chose, c'est que ça s'est peut-être, ça se manifeste plus particulièrement peut-être, pas dans la société occidentale que dans d'autres sociétés. Ça se manifeste, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, en général, pour tout homme possible. Oui, ça, c'est vrai. D'accord, oui.
Puis, je vais poser une question aussi. Vous pourriez nommer un auteur ou deux qui traitent à peu près des sujets que vous avez traités, vous, ce soir? Ou des...
Tous les auteurs auxquels on peut penser traitent, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, le sujet de ce soir. C'est d'ailleurs sa difficulté, c'est que, d'une certaine manière, c'est une espèce de condensé de l'histoire et de l'évolution de toute la philosophie occidentale,
oui,
dont,
oui,
je vous ai parlé ce soir.
Mais
la totalité des auteurs rentre, n'est-ce pas, dans cette... et en particulier des auteurs modernes, n'est-ce pas, rentre dans la description ou participe à l'élaboration des principes du monde moderne tel que je l'ai défini.
Ouais, disons, pour la vision, votre vision de la démocratie, on parle,
oui,
disons, de M. Dumont, là, il a fait de l'Homo Hierarchus, ou bien des auteurs comme ça. Alors,
oui,
il y a une certaine vision qui n'est pas moderne, qui est très élaborée, puis qui fait contraste avec tout ce que l'homme moderne peut entendre généralement à la télévision, qui est vraiment de fond. Il y a certains auteurs, j'en connais quelques-uns, mais... Je me dis que vous en connaissez sûrement d'autres, hein, qui d'autres des individus, des auteurs et des philosophes aussi qui ont la vision non moderne de la politique et de la philosophie et toutes ces choses-là qui s'enchaînent. Parce que c'est tout un enchaînement, finalement. Ben, faut que ces auteurs-là ou ces philosophes-là sont de philosophie traditionnelle au lieu d'être de philosophie classique même,
oui,
classique, ben, avec une compréhension moderne. Alors, ils ont une autre vision radicale, différente.
Ce que vous voulez dire, c'est quels sont les auteurs traditionnalistes qu'on pourrait citer aujourd'hui, les philosophes traditionnalistes qu'on pourrait citer aujourd'hui.
Oui, oui.
C'est ce que
ça,
vous voulez dire.
Pour continuer, pour comme culture, pour apprendre plus, pour lecture, pour...
Oui, oui.
Pour intérêt.
Oui. Vous avez... depuis la Révolution française, depuis la fin du XVIIIe siècle, n'est-ce pas, depuis l'ère des Lumières, vous avez une longue tradition... d'auteurs qui, chacun à leur manière, disent, s'efforcent de formuler ce genre d'idées. si vous voulez, un nom qui, parmi ceux que l'on pourrait invoquer à l'appui de ce genre de thèse, bien qu'il ait vécu dans une société qui ne soit pas encore la nôtre, mais je suis persuadé qu'il aurait dit, il aurait tenu ce genre de propos, mais je ne sais pas, moi, prenez par exemple Joseph de Maistre, prenez, si vous voulez, un autre pays, l'espagnol Donoso Cortés, probablement vous avez... voilà deux noms, enfin parmi bien d'autres. Bon, c'est le premier qui me traverse l'esprit, mais enfin, voilà.
Et parmi nos contemporains, il y en a sûrement aussi.
Nos contemporains, oui, il y en a. Enfin, c'est toujours plus difficile de citer les contemporains, oui, parce qu'on a l'air, en citant un contemporain, oui, d'exclure les autres.
Oui,
c'est ça qui me gêne un peu, je veux exclure personne, au contraire. Alors, il y en a bien, j'ai bien un ou deux qui me viennent à l'esprit, mais ça ne veut pas dire, en même temps, il faudrait que je fasse, enfin, bon, ils me viennent à l'esprit maintenant, cinq minutes après, je pourrais penser à d'autres noms, alors, bon, mais,
tenez, vous avez,
par exemple,
c'est ça.
Ou l'homme qui a donné son nom à ce bâtiment.
Monsieur le professeur, il me semble que dans votre exposé, vous avez condamné le libéralisme économique. Est-ce qu'il ne serait pas possible de considérer le libéralisme économique comme un moyen dans une société où les individus obéiraient à des règles,
oui,
non pas individuelles, mais des règles supérieures ?
Bon, je suis très content que vous posiez cette question, parce qu'en effet, c'est là un thème très classique. D'ailleurs, on a un peu nous rejoignons des propos que nous avons tenus l'autre jour. Voyez-vous, votre idée est l'idée d'une bonne partie des gens qui sont un peu effrayés par les développements de la société moderne, mais qui en même temps hésite peut-être évidemment un petit peu à porter un jugement trop radical quand même sur cette société. Je peux vous répondre très brièvement, je crois, n'est-ce pas, ce que je répondrais, c'est aussi des thèmes qu'on aurait pu aborder, que j'avais dans mes papiers, mais il y avait tellement de choses à dire. Et je ne pense pas que vous puissiez, d'une certaine manière, considérer que l'on peut guérir la société moderne de ses vices simplement en accomplissant les gestes qu'elle réclame, mais en les accomplissant en quelque manière dans un autre esprit. Je ne pense pas que vous puissiez, si vous voulez, combiner la volonté, pour parler, prendre des exemples très simples, la volonté de développement économique avec le souci d'une vie spirituelle. Je ne pense pas que un certain nombre d'activités soit en quelque manière comme des choses neutres, à qui on peut donner une valeur différente selon la manière dont on les pratique. Je ne pense pas qu'il y ait deux manières de pratiquer l'économie. Je pense qu'il n'y en a qu'une. C'est d'ailleurs pourquoi je ne suis pas socialiste pour un sou. Si on veut faire de l'économie, on est libéral ou on n'est rien du tout. Il n'y a qu'une seule manière de faire de l'économie. Seulement, une fois que vous faites de l'économie, une fois que vous vous comportez en acteur économique libéral, vous n'êtes plus que cela. Je ne pense pas que l'action économique soit, encore une fois, comme une espèce d'acte neutre dont on peut faire un bon ou un mauvais usage. Je crois que l'acte économique comporte sa propre logique, comporte sa propre dynamique. Je crois qu'une fois que vous êtes engagé dans l'action économique efficace, vous êtes contraint de vous comporter de telle manière que vous finissez tôt ou tard par trahir les finalités au nom duquel, desquels, vous pensez pouvoir pratiquer légitimement l'action en question. Si vous vous comportez, tenez, essayons de cette formule, enfin cette longue phrase abstraite, relayons là un exemple concret. Si vous voulez être un producteur efficace, ben vous voulez dominer le marché. Il n'y a pas 36 manières pas, de faire réussir une compagnie, une entreprise, prenez le mot anglais. Il n'y a pas 36 manières, n'est-ce pas, qu'une entreprise industrielle réussisse. Et il n'y a pas une manière chrétienne et une manière non chrétienne de faire réussir une entreprise économique. Pour qu'une entreprise économique réussisse, il faut qu'elle suive les comportements qui sont requis par l'efficacité économique. Et ces comportements ne peuvent pas ne pas entrer en contradiction, pour parler crûment, avec des comportements chrétiens. Je ne pense pas qu'on puisse réconcilier christianisme et économie. L'économie dans le christianisme classique avait une place, une signification, des lois, des règles parfaitement antithétiques de celles qui sont celles de l'activité économique dans le monde moderne. Votre question est une excellente question parce que c'est un thème qui ne cesse de réapparaître. Pourquoi le thème, la référence à l'Opus Dei me traverse l'esprit maintenant? Parce que j'ai été en discussion il n'y a pas longtemps, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Ben, vous voyez, c'est une des attitudes parmi 36 autres, parmi beaucoup d'autres, qui consiste à considérer qu'au fond, on peut faire de la bonne économie en bon chrétien. Eh bien, je ne pense pas. Ou bien on fait de la bonne économie, ou bien on est un bon chrétien. Mais pas les deux à la fois. Parce que les comportements économiques ne sont pas neutres. Si vous vous comportez en chrétien authentique dans le monde économique, vous êtes un mauvais économiste ou un mauvais chef d'entreprise. Alors on peut satisfaire sa conscience, pas en accordant des petites prébendes, pas en distribuant des salaires un peu améliorés, en donnant une heure de travail de moins de temps en temps aux employés, tout ça c'est très joli. Mais on ne peut pas faire beaucoup plus. C'est du saupoudrage. C'est le pâté d'alouette. Avec beaucoup de cheval et très peu d'alouette. Il me semble. Et nous avions avec monsieur l'autre jour une discussion justement sur je vais transposer votre problème et lui donner une autre forme plus simple. Nous discutions avec monsieur l'autre jour exactement du même problème, mais en des termes légèrement différents. La question de savoir si on peut faire un... J'ai d'abord réussi à le convaincre que pour la télévision, c'était fâcheux, mais il a tenu bon pour la radio, quand même. Eh bien, je ne pense pas qu'il y ait un bon et un mauvais usage de la radio. Il y a un usage de la radio tout court. Et l'usage de la radio comporte sa logique, sa dynamique. Et si vous voulez être un bonhomme de radio, il faut vous comporter d'une manière et pas d'une autre. Et je dis que, si vous voulez, cette manière n'est pas réconciliable avec, par exemple, l'attitude chrétienne. Je ne pense pas que la radio soit un moyen, si vous voulez, parler très concrètement, très crûment, je ne pense pas que la radio soit un moyen de diffusion du message évangélique. Je ne pense pas que la radio puisse être utilisée aux fins de la diffusion évangélique. Je pense qu'au contraire, le développement des moyens de communication de masse est nuisible au développement de l'attitude évangélique.
J'espère que vous ne dites pas la même chose pour les cassettes, parce qu'on a enregistré votre conférence.
Eh bien, écoutez, je vais vous dire une chose. Je suis contre. Je vous laisse faire, parce que vous avez votre politique. Mais je suis contre l'usage des cassettes, monsieur l'abbé Roscoe le sait bien, parce que c'est une chose de faire une conférence il y a un contact. J'essaie de faire passer une idée. Mais moi, j'ai mes notes, je suis mon idée. Il y a des soirs où je suis fatigué. Hein. Ce soir, j'étais fatigué, je voulais vous le dire, je suis fatigué. On s'est couché trop tard la nuit dernière et je suis un peu fatigué. Bon, j'avais du mal à me maintenir dans mon discours. Si vous voulez comprendre ce que j'ai voulu dire, il faut me lire. Je veux dire, au-delà de ce que j'ai essayé de dire ce soir, de ce que vous avez pu comprendre ce soir, et au-delà des maladresses de ce que j'ai pu vous dire ce soir, ou de tout ce que j'ai pu couper, si vous voulez vraiment méditer ce que j'ai dit, ça vous a intéressé, il faut me lire. Rien ne remplace l'écrit. Rien ne remplace l'écrit. C'est un des mots de la civilisation moderne que le développement de ces moyens de communication. Saint Thomas aurait eu des cassettes, mais je ne suis pas persuadé que le message de Saint Thomas soit celui qu'il a... Le fait, s'il avait prononcé ce qu'il a, des discours, des conférences en cassette, il n'aurait pas eu l'importance qu'il a aujourd'hui. Parce que rien ne remplace la précision de ce qu'on écrit. Personnellement, je désavoue toujours. Il y a des conférences dont je suis très content. Et d'autres dont je ne suis pas content. D'ailleurs, ça ne correspond en général pas au sentiment du public. Il y a des choses dont je suis très content. Le public sort très froid. Il y a des choses dont je ne suis pas content. Bon, alors, je ne sais pas ce que vous penserez ce soir. Mais de toute manière, je ne suis jamais content. Parce qu'il n'y a que l'écrit qui soit important. Parce que l'écrit, vous y revenez. L'écrit, j'en suis responsable. Je peux écrire 20 fois. Si je n'ai pas écrit 20 fois, c'est de ma faute. Si ce que j'ai écrit n'est pas bon, c'est de ma faute. Bon. Mais une fois que c'est bien écrit et que j'en assume la responsabilité, vous pouvez méditer ce que je dis. Vous pouvez y revenir. L'écrit reste. La même phrase. Vous n'avez pas compris de vous recommencer. Tandis que les paroles, hein, verba volant, c'est bien connu. Elles volent... On essaie de faire comprendre quelque chose, ça, on y arrive, on n'y arrive pas. Et la meilleure preuve de ce que je dis, vous la connaissez, c'est que si vous essayez de transcrire par écrit ces cassettes, ça donne un texte absolument illisible. Pardon ?
D'ailleurs, j'en profite pour signaler que les conférences de M. Paulin ont été publiées, en tout cas du moins certaines, dans le journal du Cercle d'études qui s'intitule Le Carillon catholique, mais ce n'est pas une transcription de l'enregistrement.
C'est ça.
C'est le texte de M.
Paulin. C'est le texte,
Paulin.
C'est ça. Oui, mais c'est ça.
Alors, vous avez une question, monsieur?
Oui, j'aurais une question, mais parce que je ne sais pas si vous l'avez déjà dit dans une conférence ou une autre, mais je me suis, on a parlé beaucoup de ce que j'ai aimé, c'est on a parlé de ce qui n'était pas à partir de ce qu'on voyait dans tous les de la civilisation. Quelle serait la forme ou une forme de la civilisation qui serait positive, là, qu'il faut...
Oui.
À quoi elle ressemblerait?
Elle ressemblerait d'abord à des hommes qui ont une capacité... Oh, il y a tellement de choses à dire. Mais je vous dirai une ou deux choses, ce qui me traverse l'esprit en premier lieu. Des hommes qui ont une capacité d'humilité. Des hommes qui commencent par se prendre conscience du fait qu'ils ne savent pas grand chose, et qu'ils sont portés à essayer de travailler, de méditer. Des hommes qui sont capables de travailler sur eux-mêmes d'abord. Ou si vous préférez, je pense que une société, la société se porterait mieux de ce que les hommes soient capables de, je dirais, si vous voulez, de méditer, soient capables de se retirer en eux-mêmes, soient capables d'essayer de faire un trajet intérieur, soit capable d'essayer de restituer en eux-mêmes un raisonnement. Ça, ce serait déjà un progrès extraordinaire. Je l'ai dit brièvement tout à l'heure, j'ai le sentiment que dans nos sociétés, on a essentiellement affaire à du bruit. Les gens écoutent des bruits. Le bruit qui entre par une oreille et le bruit sort par l'autre. Alors ils sont distraits, littéralement, par ces bruits. Mais il ne s'agit pas d'être distrait. La distraction, n'est-ce pas, est peut-être le mal principal de ces sociétés dans lesquelles les individus se jugent habilités à juger de tout. Comme ils se jugent habilités à juger de tout, ils ne s'intéressent plus à rien. Des gens capables de s'intéresser à quelque chose, c'est des gens qui sont des gens qui reviennent sur ce qu'ils ont entendu ou pu entendre, qui essaient de le reconstruire en eux-mêmes à leur manière. Des hommes capables de réflexion, si vous préférez. Et évidemment, des hommes capables de réflexion sont aussi des hommes capables de savoir qu'il y a peut-être des choses. Ce sont peut-être aussi des hommes capables de comprendre qu'ils ont besoin d'aide. D'une aide qui, lorsqu'il s'agit d'études, peut d'abord être une aide humaine, et lorsqu'il s'agit plus d'études mais de la vie, est peut-être une aide qui n'est pas seulement humaine mais qui est surnaturelle. Et ça, c'est une capacité que le monde moderne... Tenez, madame, vous voyez, je repense à la radio. Il y a 36 manières de montrer que c'est mauvais. Mais la première manière, enfin pas la première, une manière parmi beaucoup d'autres, il faut pas. Là encore, ça me vient à l'esprit comme ça. Voyez-vous, la radio, c'est par exemple un moyen d'écouter un message chez soi. Hein? Une définition paraît indiscutable de la radio, parmi d'autres, quoi. Ça vous permet d'entendre un monsieur qui fait un cours, vous êtes chez vous dans votre fauteuil, et vous pouvez entendre le cours. Eh bien, je dis, symboliquement, si vous voulez, je dis c'est mauvais. Parce que c'est d'une certaine manière, déjà de manière très symbolique, mais très significative, c'est une attitude qui consiste, pour celui qui parle, à aller vers celui qui écoute, à lui servir son plat intellectuel à demeure, dans les meilleures conditions, et qui par conséquent place le récepteur en position de supériorité par rapport à celui qui diffuse le message. C'est très mauvais. Je ne dis pas qu'il ne faille pas aller vers l'auditoire. Quand je vous ai parlé ce soir, j'ai essayé de vous dire des choses, de réduire des problèmes théoriques très compliqués, et j'aurais pu être beaucoup plus technique en termes très très simples. Bon, j'ai essayé de vous faire comprendre quelques idées qu'il aurait fallu en réalité beaucoup de temps pour développer rigoureusement, philosophiquement. Je ne dis pas qu'il ne faille pas essayer de pas faire passer un message, mais vous comprenez, je suppose en même temps que dans le moment où j'essaie de simplifier les choses pour vous les faire comprendre, vous êtes dans une position de réceptivité, que vous faites attention, vous avez, même le fait, si vous voulez, de n'être pas bien assis d'une certaine manière, c'est important. Il y a un côté symbolique. Le travail, les choses de l'esprit ne sont pas des biens de consommation qui sont faits pour être consommés confortablement et avec aisance. Et une formule qui m'a toujours paru idiote, c'est le grand slogan de la méthode assimile. Apprendre l'anglais, l'espagnol, le patagon, comme en se jouant. On n'apprend pas en se jouant. Quand on joue, on n'apprend rien du tout. Il faut faire un effort. L'effort est constitutif. Une civilisation chrétienne, c'est d'abord une civilisation dans laquelle les gens sont capables d'efforts. Et d'efforts sur eux-mêmes. Ce qui me paraît caractériser nos sociétés, c'est l'avachissement. C'est le fait que les individus deviennent de plus en plus veules, de plus en plus incapables d'efforts. Et d'une certaine manière, voyez-vous, vous auriez pu me... J'avais pensé en parler aussi, vous auriez pu me faire une objection. Mais enfin, si la société va si mal, comment est-ce qu'elle tient encore debout? Enfin, pourquoi est-ce que ça continue à marcher? Le modèle américain, après tout, la société américaine, je dis que le libéralisme est une catastrophe, mais regardez les Américains. Les Américains développent, c'est ça. Ben, voyez-vous, j'ai réfléchi à cette question 10 fois. Et la 10e ou la 11e réponse que je viens d'apporter, j'y ai pensé l'autre jour. C'est la suivante. C'est que la société américaine tient non pas parce qu'elle est par ses vertus, ou parce que le système a des vertus, mais parce que les gens sont devenus tellement veules qu'ils ne sont plus capables de changer de système. Ils vivent avec ce qu'ils ont. Ils font avec ce qu'ils ont. C'est pas que le système soit bon. Il est horriblement corrompu. Mais les hommes sont tellement... devenus tellement veuls qu'ils n'ont plus le courage de penser à autre chose. S'il y avait des gens plus déterminés, je pense que le système sauterait. Nous souffrons aussi de ça. Pourquoi la civilisation chrétienne recule? Parce que ça demande une certaine vigueur. Cette vigueur fait défaut. Ce qui fait d'ailleurs le triomphe de ceux qui osent dans cette société. Si vous me permettez ce parallèle incongru, il y a deux genres d'hommes qui osent dans cette société. C'est ceux qui ont des idées d'une part, et puis c'est les brigands de l'autre, les voleurs et autres criminels, qui ont le culot de se procurer rapidement, par n'importe quel moyen, ce dont tout le monde rêve. La prolifération du crime dans les sociétés modernes est corrélative de la déliquescence des volontés de la masse. La prolifération du crime, elle est due à quoi? D'abord au fait que ces sociétés sont devenues tellement incertaines d'elles-mêmes qu'elles n'osent même plus punir. Une société qui n'ose plus punir, sauf naturellement, sauf les citoyens honnêtes. Les crimes que ces sociétés punissent, c'est l'excès de vitesse. Alors là, comme nous disait tout à l'heure M. l'abbé, ça, c'est le crime impardonnable. Mais tuer la vieille dame pour lui prendre 10 francs, ou 3 dollars, ou l'avortement, ou l'homosexualité, ou n'importe quoi, ça... est souverain. On ne punit pas cela. Mais des sociétés qui n'osent plus punir sont des sociétés finies. Ça me paraît tout à fait évident. C'est même ce qui, pour revenir à ce que je disais il y a un instant, c'est même la seule chose qui les maintienne en vie.
Ressort de vos conférences, Dr Paulin, que vous êtes très hostile à la modernité. Or, habituellement, dans notre monde actuel et surtout dans les sciences de l'homme, on accorde une valeur améliorative à ce terme de modernité. Mais j'ai remarqué que, bon, il y a des gens qui lui accordent une valeur améliorative, d'autres qui lui accordent une valeur péjorative, mais... je n'ai jamais vu de définition très nette et très précise du concept de modernité qui pourrait à la fois satisfaire les traditionalistes et les modernistes. Est-ce que vous avez réfléchi à cette question-là et est-ce que vous avez votre propre définition de ce qu'est la modernité?
L'année dernière, ça doit être sur une cassette, j'avais fait une conférence sur tradition et modernité pour essayer de donner une définition précisément de la modernité.
Mais je peux pas l'écouter, c'est un moyen moderne.
Voilà. Mais si vous voulez, enfin, pour autant qu'on puisse le dire en 3 mots, enfin, Ce qui me paraissait caractéristique de la modernité, c'était que, au fond, ce que j'avais voulu dire, très simplement, ce sont toujours les mêmes idées qu'on retrouve. Il n'y a pas de raison de changer de principe. Les mêmes principes expliquent des choses.